donc, en fait, il y a un petit peu trois questions différentes. Donc, tu dis que tu t'es senti trahi par Hollande et que tu souhaites cette émission, par exemple. Bon, c'est vrai que nous, Hollande, il a fait quand même il a réussi sans même promettre grand-chose. Il a réussi à pas mal décevoir. Parce qu'en réalité, il n'avait quand même pas promis grand-chose. Mais le peu, effectivement, qu'il avait dit, il n'a même pas été capable de le tenir, parce que justement, il y a cette pression de la bourgeoisie, du patronat, qui fait que, il n'a aucune, qui fait que tout simplement, il faut qu'il prenne l'argent, il faut qu'il fasse payer quelqu'un, comme il ne peut pas faire payer la bourgeoisie, il fait payer les travailleurs. Nous, ça ne nous surprend pas. Dans la campagne électorale, j'avais défendu l'idée que si Hollande était élu, il ne fallait pas se faire d'illusions. Ce gouvernement socialiste serait un gouvernement de combat contre les travailleurs. J'ai dit ça dans la campagne électorale. Parce que quand il y a une période de crise et qu'il faut forcément qu'il y en ait qui se serrent la ceinture, qui payent, et quand on ne dit pas qu'on fera payer les plus riches, qu'on fera payer la bourgeoisie, on peut être sûr qu'ils se préparent à faire payer les autres, les exploités, les plus pauvres et les travailleurs. Et voilà, il n'y a pas eu de surprise, il n'y avait pas de surprise à attendre, à avoir. Dans une période de croissance, dans une période où l'économie se développe, quand les réformistes et les socialistes sont au pouvoir, et que la bourgeoisie elle est prête à lâcher quelques miettes parce qu'elle prospère, parce que les affaires vont bien, eh bien les socialistes ont un peu de marge de manœuvre. Et ils peuvent faire tomber les miettes, mais pas dans une période de crise. Dans une période de crise, c'est eux, leurs dividendes, leurs profits, leurs spéculations, ou c'est nous, notre boulot, notre salaire, nos conditions de vie. Il n'y a pas le choix. Et à partir du moment où ce gouvernement prétendait gouverner pour tous, on pouvait être sûr que voilà, comme Mitterrand l'avait été en son temps, qu'il allait effectivement être le gestionnaire loyal et qu'il allait faire la politique que la bourgeoisie lui demanderait de faire. Et donc on le voit aujourd'hui. Alors, tu dis, c'est gentil de dire que tu souhaites que je sois présidente de la République en 2017, mais... outre que ça signifierait un climat politique bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, s'il y avait des millions, il en faudrait quoi, 30, 40 millions, c'est ça, de travailleurs qui se mettent à voter communiste révolutionnaire à la présidentielle, 20 ça suffirait. Mais ça change quand même pas le problème. Ça voudrait dire quand même que les travailleurs auraient repris confiance en eux, repris confiance dans leur force, repris confiance dans le fait qu'on peut en rabattre à cette bourgeoisie, qu'on n'est pas dépendant de la bourgeoisie, qu'on peut fonctionner sans les patrons, qu'on peut se débarrasser de tous ces gens-là et qu'on peut diriger la société tout aussi bien que. Ça voudrait dire ça. Et ça, nous, on pense que ça ne peut venir que si les travailleurs, y compris, traversent des moments de lutte où ils mesurent leur force, où ils mesurent leur poids, où ils mesurent qu'ils peuvent agir, qu'ils peuvent imposer des choses. Donc ça voudrait dire, de toute façon, si j'étais élue, ça voudrait dire, en réalité, des changements sociaux, des grèves, des manifestations, toute une ébullition sociale. Ça ne peut pas venir comme ça. Voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, tous ceux qui font croire que justement c'est une question de bonhomme à la tête du gouvernement, que c'est une question de changement de majorité, de changement de Premier ministre, eh bien, c'est pareil, ils nous trimballent d'illusion en illusion. Parce que le problème de fond, c'est qui est-ce qui pèse dans l'économie et sur la société? Eh bien, c'est ceux qui ont de l'argent. D'ailleurs, du coup, j'en profite pour évoquer un aspect de ta question. Tu parles des réseaux d'influence du siècle, de l'IFRI, etc. Mais les réseaux d'influence, ils sont tout vus. C'est ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui possèdent le capital, c'est cette puissance financière, c'est la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle est seule, elle est un immense réseau d'influence. Il n'y a pas à chercher plus loin. Quand Mittal soi-disant, il a été reçu par Hollande à propos de Florent Valvoire en lui disant « Oh, vous m'emmerdez pas parce que moi, j'emploie 20 000 travailleurs en France. » Eh ben, oui, c'est ça son pouvoir, c'est ça son poids, c'est ça son influence. C'est le mur de l'argent. Le mur de l'argent, hein, et ce mur de l'argent, ce pouvoir aujourd'hui, hein, qui est conféré par les capitaux et par la possession de tous ces grands groupes capitalistes, eh bien, pour le renverser, il faut la force, il faut une force sociale, il faut les travailleurs mobilisés en action qui justement contestent le pouvoir. Hein, il faut une révolte massive, il faut pour le contester, bah oui, quelque chose de plus puissant que 68 et que la grève de 36. Il faut aller jusqu'à effectivement contester même leur pouvoir de direction, leur pouvoir politique à cette bourgeoisie et à tous ces grands capitalistes. Donc voilà, il faut pas se leurrer. Ça sera pas dans les élections, ça sera pas en votant bien que on changera les choses. Hein, parce que tous ces gens-là, ils sont pas élus. On vote pas pour eux. Leur pouvoir et leur domination sur l'économie leur viennent des capitaux. Comment l'enlever? Eh bien, en leur enlevant les capitaux. En leur enlevant leurs droits de propriété sur les entreprises, il n'y aura pas d'autre façon de faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est nous, notre confiance, pour changer les choses. Elle est dans les travailleurs. Dans les travailleurs, dans leur capacité non seulement à se mobiliser et à se battre, mais aussi dans la confiance qu'on a dans les travailleurs de faire fonctionner, de faire tourner l'économie, d'en construire une toute nouvelle. Et on a raison. Parce que c'est les travailleurs qui déjà la font marcher, cette société, cette économie. C'est eux qui en sont la base. C'est eux qui en sont le socle de cette économie. Et même ils font le plus difficile d'un certain côté. Parce que tous les problèmes techniques qu'on produit, ça, ils les résolvent. Donc prendre les décisions, ben, ils sont aussi capables de le faire. Prendre les décisions pour décider de qu'est-ce qu'on fait de toutes les richesses produites, où est-ce qu'on les réinvestit, qu'est-ce qu'on fait de ces richesses pour organiser rationnellement l'économie. Nous, on pense que les travailleurs sont aussi capables de ça. Ça nécessite effectivement de s'organiser, de se mobiliser et de se transformer en véritable force politique. Oui, sur la loi de 73 et la financiarisation de l'économie, c'est effectivement une des voies de la financiarisation. C'est pas la seule, mais c'est une des voies. Et en tout cas, ce qu'il y a derrière cette idée, y compris qui est défendue par... j'ai entendu plein de fois Marine Le Pen dire qu'il faudrait abolir, etc., et comme si ça allait tout régler. Ça, moi, j'y crois pas, hein, du tout. Parce que là encore, c'est même pas une question de loi, en fait. Hein, c'est pas une question de loi, pour faire leur argent, pour étrangler l'État, les bourgeois, ils ont d'autres moyens. J'ai expliqué comment l'État, il servait de vache à lait. Oui, mais... À plein de capitalistes aujourd'hui, et aux financiers, aux banquiers. Alors, ça passe aussi par cette loi, c'est vrai, mais y compris l'idée qu'il y a derrière, de dire, bon ben on laisse tomber cette loi, et on fait tourner la planche à billets, parce que c'est ça un petit peu l'idée qu'il y a derrière ceux qui demandent la suppression de cette loi. Ils disent, ben voilà, l'État n'a pas besoin d'aller t'emprunter auprès des banquiers, il suffit qu'ils mettent en circulation les billets, qu'ils fassent tourner la planche à billets. C'est ça l'idée.
Le problème, c'est qu'ils le font, mais en plus ça, ils font payer des intérêts. 50 milliards par an, quand même.
Oui, d'accord, mais tu sais qu'en réalité, s'il y avait cette planche à billets qui fonctionne, qui tournerait, en fait, on le paierait avec l'inflation, avec de l'hyperinflation, et on le paierait de notre poche aussi. Il le prendrait aussi dans notre poche. Donc, de quelques bouts, qu'on le prenne, voilà, on le paierait, à moins de dire, effectivement, à moins de dire, mais ça, nous, c'est que cette dette-là, c'est pas la nôtre, parce que moi, c'est ça que je défends, c'est cette idée-là. Cette dette-là, c'est pas la nôtre. Cette dette de l'État, hein, y compris ce budget-là. Est-ce qu'on en décide le début d'un centime de ce budget? Ben non. Et en réalité, ce budget, ils le mettent à la déchetterie, même quand ils construisent les écoles. Ça va dans les poches de Bouygues, des Fages, etc. C'est pour les bétonneurs. Même quand ils prétendent faire le bien de toute la société, hein, 600 milliards. Mais pourquoi? Les hôpitaux, ils marchent mieux. Les écoles, les retraites, elles ont été augmentées. Mais non, on n'en a pas vu la couleur hein, de cette dette. C'est pas la nôtre, on la reconnaît pas. Ça, c'est la dette des bourgeois. De la même façon que c'est l'État des bourgeois. Et quand on nous explique que c'est le déficit parce qu'il y a trop de services publics, c'est des menteurs. Des menteurs. Bon, je suis conseillère municipale à Vaux-en-Velin. Mais pour vous dire, quand il y a un conseiller municipal, le nombre de dossiers qui consistent à voter pour les travaux où on vote des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros pour des boîtes, pour des entreprises, et parfois des très grosses, mais ça constitue, c'est les 4/5 du conseil municipal. C'est les 90% du budget, ça va là. Et là, moi, je vous parle d'une ville, je vous parle même pas de l'État. Mais c'est pareil. C'est pareil. Alors nous, on va pas se casser la tête pour savoir comment il faut rembourser tout ça. Hein? On dit, ben voilà, c'est votre... hein, c'est le fruit de vos dépenses, c'est le fruit de vos cadeaux, encore une fois, parce que c'est des cadeaux, hein, aux capitalistes, c'est votre problème. Nous, on défend notre peau. Nous, on défend pas payer. On défend pas être, nous, les vaches à lait. Voilà, c'est plus par ce bout-là, à mon avis, qu'il faut prendre le problème. Donc sur l'ANI, oui, j'y ai fait allusion, hein, avec effectivement la loi sur la flexibilité. Ça fait partie effectivement avec d'ailleurs la nouvelle attaque sur les retraites, vraiment d'une attaque, d'une attaque dégueulasse. Enfin, c'est vrai que jusqu'à présent quand même, les patrons ils ne pouvaient pas baisser les salaires, bah, maintenant ils vont pouvoir. Et c'est vrai que il va leur suffire de prétexter quelques difficultés hein, pour qu'ils puissent revoir les contrats, baisser les salaires, imposer la mobilité. Et ce qu'on voit, c'est que dans toutes les entreprises maintenant, tous les patrons veulent leur accord de compétitivité. Alors il y a eu Renault qui a ouvert le bal, et puis maintenant ils le veulent tous. Hein, au nom de la compétitivité, c'est des reculs, c'est des attaques, c'est des remises en cause. Et tout ça, c'est légal. Maintenant, c'est légal, grâce effectivement aux socialistes. Hein, et c'est vrai que les patrons, ils ont vraiment de quoi être contents. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein, ils ont eu un petit moment de doute après l'élection de Hollande. Ils se demandaient est-ce qu'on sera aussi bien servi qu'avec Sarkozy. Maintenant, c'est fini. Hein. Ils n'ont plus de doute, ils sont heureux, ils sont contents. Eux, ils veulent rien changer, hein, même sur les impôts. Ils veulent rien changer, ça leur va très bien. C'est sûr que ils ont des exonérations, des niches en veux-tu en voilà, et leur situation, ils veulent surtout pas qu'elle soit revue. Donc effectivement, c'est vraiment une politique. C'est pour ça qu'on parle de politique anti-ouvrière. C'est une politique pro-patronale, mais une politique anti-ouvrière. C'est clairement ça. Alors maintenant, tu parles effectivement, tu as évoqué que tu présenter sur une liste la vraie gauche, on ne va pas poser spécialement de questions par rapport à ça. Moi, je voudrais juste souligner que justement, nous, notre démarche, c'est justement d'abord faire une campagne nationale. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui manque cruellement aux travailleurs, c'est justement une politique pour changer ce qui est de fondamental, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. C'est cette politique-là, on veut présenter et défendre un programme de lutte hein, pour les travailleurs dans cette élection, un programme national. Ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est assez impressionnant, c'est qu'il y a plein de catégories sociales qui se battent, mais les travailleurs qui ont bien plus de raisons de se battre, de vouloir protester, de vouloir dire leur colère, eh bien, ils ne le font pas. Parce qu'ils ne sont pas organisés et que ceux qui devraient être organisés ne veulent pas le combat. C'est le cas des grands dirigeants syndicaux qu'on voit faire le service après-vente de la politique de Hollande. Hein, et parce qu'ils n'ont pas de politique non plus. Quand on discute avec nos camarades militants, mais même dans les syndicats, on voit qu'ils ont même. Enfin, ils n'ont plus. Ils ne savent plus quoi faire. Ils voient de façon un peu désemparée le Front National, effectivement. Monter, influencer de plus en plus de travailleurs, et ils se demandent bien comment tout ça, ça peut changer. Bon, ben, nous, on pense que ce qui est vital, c'est de discuter, de mettre en avant, dans toutes les occasions électorales possibles, cette politique-là. Et cette politique, c'est à la fois ce programme de lutte que j'ai expliqué, et c'est à la fois cette perspective aussi de société communiste. Parce qu'il faut être prêt à aller jusqu'au bout, justement, à ne pas accepter ce chantage patronal, et à se dire que tous ces gens-là qui nous font du chantage, ben on peut s'en passer, justement. Et il n'y a pas de raison d'être toujours à se dire, ben on dépend d'eux, il faut qu'ils veulent bien, il faut leur dérouler le tapis rouge pour qu'ils restent, etc. Non. Parce que là, ils nous mettent dans le mur, ils mettent toute la société dans le mur, ils nous font reculer des générations en arrière. Donc c'est toute cette politique que nous voulons avancer et défendre. Et ça, cette politique-là, ce type de campagne-là, on la propose. On la propose à tous les militants communistes, à tous les militants qui sont très révolutionnaires, à tous les militants qui veulent la défendre, cette politique-là. On la propose, ça ne nous pose aucun problème. On la propose aux militants du Parti communiste, on la propose aussi aux militants du NPA, mais c'est bel et bien cette politique-là, ce programme-là, et cette perspective. Et tous ceux qui veulent effectivement mener ce type de campagne-là, qui considèrent que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, qu'il faut doter la classe ouvrière de nos politiques, ben on peut être ensemble. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la perspective du tout du Parti communiste, et c'est même pas la perspective du Parti de gauche. J'en ai fait allusion, j'ai expliqué comment Mélenchon, il expliquait que lui, Premier ministre, ferait quand même beaucoup mieux que Ayron. Et nous n'y croyons pas, ça. C'est pas notre politique. Ça serait aller d'illusion en illusion que de le croire. Et c'est même pas la perspective du NPA, qui justement préfère s'allier avec toute force pour apparaître un peu plus gros et puis mélanger un petit peu toutes les revendications. Voilà pourquoi on souhaite absolument faire des listes lutte ouvrière, des listes lutte ouvrière, parce que nous, notre politique, on veut la défendre. Un des problèmes qui se pose aux travailleurs, c'est pas nouveau, mais c'est que justement, cette politique-là, les militants communistes, ils la défendent plus. Et sûrement pas dans les élections. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit toujours de faire des alliances, toujours de voter pour le moins pire, mais jamais d'affirmer sa politique. Voilà. Et c'est comme ça qu'on finit par ne plus défendre nos idées, par plus défendre nos principes, nos valeurs, notre orientation. C'est comme ça qu'on met dans notre poche nos idées. Je vous rappelle quand même qu'on est allé pas nous, mais tous les autres, jusqu'à voter Chirac au nom de ce truc-là. Et c'est toujours pareil. Les ouvriers, il faut toujours qu'ils choisissent entre le moins pire et si. Et puis maintenant, c'est encore pire ce qui se passe, c'est encore pire. C'est qu'on entend autour de nous des gens dire « Ah mais non, faut pas trop gueuler contre Hollande, parce que si on gueule contre Hollande, c'est le Front National qui va monter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut qu'on applaudisse Hollande ? C'est ça qu'il faut faire ? Nous, on est révoltés par sa politique. Il faut montrer aux travailleurs que oui, on est révoltés comme eux. Sauf que nous, on a une politique pour exprimer cette révolte et pour qu'elle aboutisse, pour qu'elle soit féconde, pour qu'elle débouche sur un changement de situation pour les travailleurs, pour qu'elle inverse le rapport de force. Parce que nous, on sait qui est le responsable de tout ça. Donc voilà, c'est toute cette politique-là qu'on veut défendre dans les élections municipales et européennes. Et on pense que c'est vital aujourd'hui qu'il y ait des militants qui se tiennent à cette politique. Et d'autant plus vital que justement on l'entend de plus en plus rarement.